Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Présence pour notre premier rendez-vous avec l'un des musiciens programmés lors du Festival de Rock Amadour 2021. Et ce premier entretien nous est accordé par Hervé Niquet, qui va diriger le concert d'ouverture de cette 16e édition, ce dimanche soir à 21h à la Basilique Saint-Sauveur avec le concert spirituel, la formation qu'il a fondée il y a 34 ans maintenant. Bonjour et bienvenue à vous aussi Hervé Niquet. Vous revenez dans un lieu que vous connaissez bien, puisque vous y êtes déjà produit à plusieurs reprises et parce que le concert spirituel a noué un partenariat avec le Festival de Rock Amadour sous la forme d'une résidence depuis 2020. Alors on se pose la question évidemment, comment se passe cette résidence dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons depuis un an et demi? Je suppose que ce qui était prévu dans le cadre de ce partenariat avec le Festival n'a pas pu se concrétiser complètement jusqu'alors.
Eh bien, vous supposez très bien, parce que vous avez vu, comme moi, l'état du pays au niveau culturel, et donc tout a été extrêmement difficile. Ça a été un miracle qu'on puisse déjà passer l'année dernière, donner deux tiers de concerts pour une jauge réduite de moitié. Enfin, tous les festivaliers et tous les organisateurs de ce festival se sont battus pour que ça existe, mais notre résidence, évidemment, a été réduite à la portion congrue, puisqu'on ne peut même pas réunir le nombre de musiciens requis dans un espace. Enfin, bon, bref, ça a été très compliqué, réduit à sa plus simple expression, malheureusement.
Qu'est-ce qui est prévu exactement dans le cadre de cette résidence? Ce sont des rendez-vous assez réguliers sur place avec vos musiciens à la basilique? Qu'est-ce que vous avez prévu de travailler? Est-ce qu'il y a un programme précis? Est-ce qu'il y a peut-être aussi un projet d'enregistrement de CD à terme?
Oui, bien sûr, il y avait un projet d'enregistrement, il y avait des venues pour j'aime pas le mot animation, mais pour des rendez-vous musicaux, quoi, tout simplement.
Dans la région, autour de Rock Amadour.
Oui, bien sûr, avec les mélomanes de la région. Donc voilà, il est tellement difficile de se déplacer et de se réunir que tout ça est tombé, évidemment, tombé à l'eau. Mais ce qui était prévu, oui, c'était autour de notre venue, pendant l'année aussi, avoir des échanges, des réunions scolaires aussi, parce que c'est aussi l'avenir de notre culture et de notre pays. Voilà, il y avait plein de petites choses, mais qui sont primordiales dans notre métier, dans l'action culturelle qu'on doit mener si on veut avoir des mélomanes avertis dans quelques années.
Voilà, oui, c'est un véritable programme, un projet d'action culturelle, oui, non absolument. Seulement à Rock Amadour, mais qui devait irradier dans toute la région. Bon, espérons que d'ici l'année prochaine, les choses pourront rentrer dans l'ordre et que cette résidence pourra vraiment prendre la forme qu'elle doit prendre. Alors, le concert d'ouverture du festival est donné à la Basilique Saint-Sauveur, je le disais tout à l'heure. Plusieurs musiciens ont déjà mis en avant la grande qualité de l'acoustique du lieu. C'était le cas notamment de William Christie, que vous connaissez bien également, qui découvrait ce lieu l'an passé. Est-ce que vous trouvez que c'est un lieu où l'acoustique est, si ce n'est extraordinaire, en tout cas de grande qualité, notamment pour la musique chorale que vous pratiquez?
Déjà, j'allais dire, avant l'acoustique, c'est l'ambiance et le lieu, parce que c'est d'abord un lieu qui se mérite, qu'on vienne par le bas ou qu'on vienne par le haut, ça se mérite. Et puis, de se retrouver à flanc de rocher dans un volume aussi étrange, parce qu'il y a trois nefs, qu'on ne sait pas réellement où est le cœur, comment on peut se mettre pour se faire entendre ou même entendre. Le résultat est que quand on entre dans la basilique, on se trouve pris par... on est dans un autre état. Alors déjà, ce qui fait que dès qu'on perçoit un son, la perception est très très étrange, et je pense que c'est ça... Car le bâtiment n'est pas très grand, hein, donc non. Ça pourrait éventuellement vite saturer, mais il est très large, il n'est pas si haut de plafond que ça, et pourtant l'alchimie fait que le mélomane, j'allais dire presque le pèlerin, est réceptif à la moindre étincelle sonore. Donc je pense que c'est même pas une question d'acoustique, c'est une question d'ambiance. C'est absolument unique et formidable, c'est bien pour ça que tout le monde s'y précipite.
Alors vous l'avez abordé là dans votre intervention à l'instant, la configuration de la basilique est étrange, comme vous dites, très particulière. Est-ce qu'elle nécessite un travail de tâtonnement, si j'utilise ce terme, assez long pour trouver le bon emplacement pour les choristes et les instrumentistes afin de tirer le meilleur parti de l'acoustique du lieu, en fonction bien sûr des œuvres interprétées et de l'effectif qu'elle nécessite?
Oui, ben voilà, vous venez de soulever un sujet, c'est-à-dire ça dépend vraiment des œuvres qu'on va jouer. Le tâtonnement, alors ça c'est notre métier, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle un raccord avant le concert dans la journée pour voir quel est l'emplacement idéal, d'abord pour mettre nos musiciens, pour qu'on s'entende, pour qu'on se voit et qu'on puisse essaimer la bonne parole de façon cohérente. C'est pas toujours facile parce qu'il y a tous ces piliers qui sont au milieu de l'église. Il n'y a pas juste un angle de vue, il y en a plusieurs. Alors voilà, moi comme j'aime bien que ça soit un peu collégial, on se met généralement au centre. Là, cette fois-ci, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on a quand même trois trompettes et timbales, ce qui fait que c'est de la musique pour les grandes abbayes anglaises, ce qui fait que là, c'est pas une grande abbaye anglaise. Il va falloir trouver un subterfuge pour que les gens ne soient pas assourdis par les trois trompettes et timbales. Et voilà, on y a déjà réfléchi. Et voilà, on a trouvé la solution, mais ça, c'est grâce à l'expérience qu'on a depuis plusieurs années de se positionner pour faire de la musique. Mais on a toujours une solution, évidemment.
Et puis la connaissance du lieu que vous avez pu acquérir depuis quelques années, je pense, est très précieuse. Après les messes brèves de Mozart lors de l'édition 2020, vous revenez donc cette année avec un programme entièrement consacré à Handel. Pour l'ouverture du festival, on va en parler en détail avec vous de ce programme, mais d'abord Handel. Quelle place tient ce compositeur et son œuvre dans votre petit panthéon personnel ?
Écoutez, moi quand j'étais jeune chef de chœur, donc il y a très très longtemps mon pauvre ami, je n'avais qu'un souhait, c'est un jour dans ma carrière pouvoir mettre ma chorale dans un bus à deux étages, il y a 40 ans c'était le sommet du luxe, de mettre ma chorale et mon orchestre dans un bus à deux étages pour aller donner le Messie de Handel en tournée en France. Chose que j'ai fait il y a 40 ans, notamment à la cathédrale de Bourges qui, comme vous le savez, est la plus longue cathédrale de France, 150 mètres. Donc Handel a une part de mon cœur, presque d'un cœur d'enfant, quoi. C'était un peu le début du concert spirituel, personne trop le sait. Et puis, il se trouve que Handel est quand même un génie, alors là, du volume sonore et du rendement acoustique musical. C'est un genre de geyser de création. Et là, on est encore la preuve. En quelques jours, il a composé ses quatre Anzem pour le couronnement de Georges II, et puis ce Te Deum pour la victoire des Anglais sur les Français. Alors voilà, ça, c'est une bonne leçon. La musique est superbe, la musique est tonitruante, la musique est d'une douceur et d'une suavité incroyable, mais surtout, c'est hyper virtuose pour tous les chanteurs. Alors ça donne vraiment une vigueur à notre expérience. C'est absolument terrible. C'est vraiment des concerts pendant lequel on a vraiment peur, enfin qu'on appréhende un peu, parce que le niveau d'exécution est très très élevé. Alors voilà, on est ravis d'en faire profiter Rocamadour.
Oui, alors je rappelle qu'il y a eu deux CD enregistrés par le concert spirituel de musique de Handel, Le Messie, le fameux Messie, et Water Music et Royal Fireworks, c'est ça, je n'oublie rien.
Alors, oui, absolument.
Une musique qui est difficile à mettre en place, qui nécessite vraiment beaucoup de précision et donc de répétition.
Ah oui, tout est difficile. Je sais pas si c'est mon grand âge qui avance, mais je trouve tout de plus en plus difficile. Mais Handel, c'est quand même sportif, quoi. Ouais. Il pousse l'interprète vraiment dans la limite de ses possibilités. Donc c'est vraiment beaucoup de travail et beaucoup de travail personnel parce qu'il faut quand même aspirer toutes les informations et pouvoir les redonner en temps voulu. Non, c'est un gros boulot, vraiment.
Alors, avant de passer en revue les œuvres que vous allez interpréter ce soir lors du concert d'ouverture du festival, nous allons écouter une première fois le concert spirituel sous votre direction dans du Handel. Il s'agit du fameux Alléluia du Messie.
Alléluia, 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 allé
le très célèbre Alléluia du Messie de Handel, interprété par le Concert Spirituel sous la direction de son fondateur Hervé Niquet, à qui je vais demander maintenant de nous présenter un peu plus en détail le programme du concert d'ouverture de la 16e édition du Festival de Rocamadour, donné, je le rappelle, ce soir à 21h à la Basilique Saint-Sauveur. Vous allez commencer la soirée avec quelle œuvre ?
Eh bien, avec le Tédéum, l'un des Tédéum de Handel, pour la bataille de Ryswick, c'est une pièce un peu monumentale. Alors, on pourra pas mettre évidemment tous les effectifs prévus par Handel dans la basilique, parce qu'ils étaient à peu près 200. Mais c'est une œuvre militaire. On rend grâce à Dieu. C'est une litanie, hein, à toi Seigneur. Nous, bref, on énumère toutes les qualités du Seigneur, pour le remercier d'un fait de gloire, d'une naissance princière ou royale ou d'un mariage. Et donc là, la victoire des Anglais sur les Français a donné lieu et existence à ce Tédéum commandé par la couronne d'Angleterre à Handel. C'est donc une pièce martiale qui rappelle la victoire des Anglais. Le début est absolument phénoménal. Les chœurs sont vraiment chatoyants, vibrionnants. Il y a des passages solo, mais on va faire comme faisaient les Anglais à cette époque. Les bâtiments étaient tellement grands. Un solo est toujours fait par, si vous avez un solo de basse, c'est fait par toutes les basses. Donc, c'est d'autant plus impressionnant. Il n'y a pas une seule personne qui va essayer d'émettre le texte de Handel, mais la collégialité, ça donne donc un aspect vraiment gigantesque. Donc ce Tédéum, et ensuite nous donnerons les quatre en osème composés par Handel à la demande du roi Georges II pour son couronnement. Alors ça a été évidemment une bagarre entre le clergé qui voulait imposer ses musiciens et son savoir-faire, et Handel qui a torché ça en quelques jours, plus vite que la demande, qui a imposé ses œuvres et son déroulement. Il en reste des choses qui sont encore utilisées dans les fêtes royales anglaises. Le dernier, c'était le mariage de
prince Harry.
Et du prince Harry, l'entrée dans la grande chapelle, ça se faisait avec la musique du couronnement de George II. C'est de la musique, ce que les Anglais savent faire de mieux dans tout ce qui est festivité, pompe et circonstances.
Oui, pour prendre le titre d'une œuvre bien connue, Pompes et circonstances, donc Coronation Anthems, les hymnes du couronnement, donc composé par Handel pour le couronnement de George II à la demande du roi, et donc auparavant le Tédéum de Dettingen pour célébrer la victoire de l'armée anglaise sur l'armée française à Dettingen en 1743, et vous allez terminer par une autre œuvre très connue, mais je pense que tout le monde ne sait pas forcément qu'elle est composée par Handel. Le God Save the Queen, God Save the King à la base.
Oui, ben ça sera, on chantera God Save the King, j'espère. Oui, c'est pas un clin d'œil, mais c'est quand même, quand on voit toutes les retransmissions des Proms, par exemple, tous les ans, sauf en temps de Covid, à la télévision, on a la nation anglaise entière, la nation britannique, qui chante ça à l'unisson, avec une ferveur invraisemblable, toujours autour de sa reine. On n'a pas ça en France.
Et
quand
non.
On chante notre hymne national, c'est un genre d'enthousiasme ou de revanche, je sais pas, mais il n'y a pas cette façon d'unir la nation dans une chanson que tout le monde connaît. Donc voilà, on donnera ça pour clore, et j'espère que le public chantera avec nous. Vous aurez le texte dans le programme. Voilà les festivités.
Alors, le God Save the King, il faut peut-être raconter la petite histoire, parce que Handel le compose, a priori, sur une mélodie de Jean-Baptiste Lully.
Oui, absolument. Alors, c'est de la musique française, hein. Je vous rappelle que quand même, l'archétype de l'art musical, au XVIIe ou au XVIIIe, c'est évidemment la France. Lully, lui, est un mélodiste hors pair, et puis beaucoup de ses mélodies vont être utilisées par pas mal de nations en Europe, voilà, et puis cette petite chanson est partie pour l'Angleterre, les Anglais et les Britanniques s'en sont emparés, et puis voilà, c'est devenu l'hymne national, mais pas tout de suite, hein. Parce que c'est juste un petit choral, à peine un choral, mais la mélodie se laisse vraiment happé par l'oreille. Bon, alors j'espère que ce sera la même chose à Rocamadour, mais tout le monde connaît cet hymne, donc voilà, même en faisant du faux anglais, je suis sûr que tout le monde va participer.
Je pense, et puis il y aura certainement dans le public quelques-uns de nos voisins britanniques en villégiature dans la région, parce qu'ils aiment bien le Lot. Voilà.
Oui.
Et puis avec un programme Handel, a priori, ça devrait quand même aussi les attirer, en dehors même du fait qu'il y ait Godsave the King au programme. Eh bien, nous allons écouter maintenant deux extraits du programme Handel que vous allez donner ce soir à la Basilique Saint-Sauveur en ouverture du Festival 2021. Des extraits des Coronation Anthems dans l'ordre Zadok the Priest et Let Thy Hand Be Straightened, interprétés par le Concert Spirituel sous votre direction. Oh, extrait en fondu enchaîné des Coronation Anthems de Handel, Zadok the Priest et Let Thy Hand Be Strengthened, interprété par le Concert Spirituel sous la direction d'Hervé Niquet. On va terminer avec un petit clin d'œil aux amateurs d'opéra de la région toulousaine, puisque 2 ans après la date prévue originellement, vous allez enfin pouvoir donner votre version de Platée, l'opéra de Jean-Philippe Rameau, au Théâtre du Capitole à Toulouse la saison prochaine. Et quand je dis enfin, je touche du bois, j'espère qu'il n'y aura pas de problème d'ici là. Cette nouvelle production avait dû être reportée en raison de la crise sanitaire, alors que vous aviez déjà commencé les répétitions. Elle est finalement programmée au début du printemps prochain, du 19 au 24 mars 2022. À la mise en scène, vos deux complices d'assez longue date maintenant, hein, Shirley et Dino. Mathias Vidal sera Platé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette production pour nous mettre l'eau à la bouche?
Nous, on a l'eau à la bouche autant que vous, parce que donc en 2020, en février 2020, on a répété 3 semaines et on venait d'arriver sur le plateau avec le décor pendant 3 jours, et au bout de 3 jours, il était évidemment indispensable d'arrêter. Donc on a un genre de grande blessure à l'âme. Alors ça, c'est un projet que nous a demandé Christophe Gristil, directeur du Capitole de Toulouse, et Laurent Brunner du Château de Versailles. Parce qu'on avait envie de recommencer les folies qu'on fait régulièrement tous les 5 ans avec Shirley et Dino. On avait commencé par le roi Arthur, on avait fait Don Quichotte sur la chaise de Duchesse. Et voilà, ça sera le 3e volet. Platée est une œuvre qui s'y prête, sauf que je trouve que c'est une œuvre excessivement noire et sous couvert d'humour. En réalité, la morale de l'histoire est absolument terrible et c'est d'une tristesse infinie. Voilà, c'est ce qu'ont bien remarqué et mis en avant Shirley et Dino. Alors on va enrober ça évidemment dans la folie de Rameau, et puis on a quelques complices sur place, à savoir Kader Bellarbi et le ballet du Capitole de Toulouse. Kader que je retrouve 40 ans après, quand j'étais pianiste à l'Opéra de Paris, du ballet de l'Opéra de Paris, et qu'il était encore petit quadrille avant de devenir étoile. Donc voilà, c'est une équipe forcenée autour de Rameau pour faire cette œuvre. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il y a tellement de surprises et d'énergie là-dedans que ça va exploser le jour où je vais faire les premières notes de l'ouverture.
Alors, vous l'avez rappelé, là, vous avez déjà collaboré avec Shirley et Dino à plusieurs reprises, et Shirley et Dino, c'est l'école du music-hall, et les gens doivent bien savoir que, je parlais de précision tout à l'heure à propos de la musique de Handel, pour les musiciens, l'école du music-hall, c'est l'école de la précision, une précision presque d'horloger, et ça doit bien vous correspondre aussi, je pense, de travailler avec eux sous ces auspices.
Ah ben oui, alors d'abord, Shirley et Dino, alias Gilles et Corinne Bellisio, mari et femme à la ville, sont des amateurs et connaisseurs de Molière, Racine, Corneille, qu'ils connaissent sur le bout des doigts. Donc c'est déjà une culture, au contraire de pas mal de metteurs en scène qui connaissent à peine leur métier. Bref, oui. Ça c'est une petite pique. Donc ce sont des gens de théâtre forcenés et... Comme vous disiez, l'humour, c'est 1000 fois plus précis que le drame. Parce que pour déclencher un rire, il faut que ça soit une chose qui soit millimétrée, organisée, mais sans aucune concession. Donc leur rigueur est forcenée, et moi ça m'a beaucoup plu. Et on s'est rencontrés dans l'exigence du travail. L'humour, c'est le contraire de la tragédie. Quand on meurt et qu'on pleure, bon ben voilà, même si on est un peu en avance, en retard, de toute façon tout le monde va pleurer. L'humour, si c'est raté, c'est raté. Donc tout est réglé au millimètre près, avec eux, avec Kader Bellarbi, directeur du ballet de Capitole de Toulouse, on s'est vraiment bien rencontrés, et je pense que ça va donner, j'en suis sûr puisqu'on avait déjà mis beaucoup de choses en route, que ça va être un des jolis spectacles de cette année.
Je peux vous confirmer que c'est un des spectacles très attendus cette année dans la programmation du Théâtre du Capitole, ce Platée de Jean-Philippe Rameau, avec donc le concert spirituel pour la musique, Shirley et Dino à la mise en scène, et puis donc Kader Bellarbi et le ballet du Capitole. C'est du 19 au 24 mars 2022, notez-le bien, et vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, bien sûr, sur la billetterie en ligne du Théâtre du Capitole. Un grand merci, Hervé Niquet. Et je rappelle aussi que l'ensemble que vous avez fondé, le Concert Spirituel, donne ce dimanche 15 août à 21h à la Basilique Saint-Sauveur, le concert d'ouverture du Festival de Rocamadour 2021, avec un programme entièrement consacré à Georg Friedrich Handel. Passe sanitaire obligatoire pour y assister. Le détail de la programmation du festival, l'achat et la réservation des places sont disponibles en ligne sur le site du festival www.rocamadourfestival.com. Rendez-vous demain à 13h30 pour un entretien avec Jean-Philippe Dissani, membre du groupe Barbara Fortuna, avant le concert de voix corse à l'abbatiale de Souillac. Merci de nous avoir écoutés et excellent après-midi à tous sur Radio Présence.